Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On a eu beaucoup de soleil et savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est que dans les prochains jours, ce sera la même chose. Donc jusqu'à lundi, si je ne me trompe pas, pas une goutte de pluie et surveillez le ciel puisqu'on nous dit que dans les prochaines heures, le moment pour voir les aurores boréales n'aura jamais été aussi le bon moment depuis 19 ans. Donc, ce soir, regardez le ciel. Je vous dirais peut-être plus vers le nord. Si vous êtes dans un endroit où c'est pas trop illuminé, vous avez peut-être la chance de voir diverses couleurs qui vont se promener. Ce sera des aurores boréales, gracieuseté d'une petite défectuosité du soleil actuellement. Donc, regardez le secteur nord. Vous avez des chances d'en voir. Ce soir, j'ai tout un invité. C'est des retrouvailles. Je sais pas s'ils se souviennent de moi. J'y ai parlé, je pense, dans mes premières armes, dans une autre vie radio où on m'avait donné un show sans nécessairement me dire quoi faire. Fait que là, j'avais appelé tout le monde que je trouvais super intéressant et je les recevais chaque soir. Et cet invité-là m'avait marqué, puis tellement que je me suis dit, tiens, je vais le représenter aux auditeurs de Boulevard 102.1. C'est quelqu'un qui a de grandes connaissances, qui a fait quand même plusieurs métiers, de ce que je comprends, là, qui est un docteur en psychologie. Son nom, c'est Amir-Georges Sabongui, docteur Amir-Georges Sabongui. Ses spectateurs l'appellent docteur Georges. Monsieur Sabongui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation, Thomas.
Très content, très content. Vous êtes quelqu'un de l'Égypte, c'est ça?
Oui, ben justement, à chaque hiver, je suis dans le déni total en espérant que cette année, l'hiver va nous oublier. Mais à chaque hiver, on me rappelle rapidement que je ne suis pas conçu et fabriqué pour les hivers québécois.
Même si ça fait... Mais faites-vous-en pas avec ça, moi non plus. L'hiver, quand il fait trop froid, j'ai bien de la misère. Mais même si ça fait plus de 50 ans que vous êtes au Québec, vous ressentez encore que cette température-là, c'est pas la vôtre.
Ben, c'est ça. Alors, je suis conçu et fabriqué dans les déserts de l'Égypte. Mais apparemment, je suis de qualité exportation, que j'ai été exporté et importé ici. Et en fait, c'est depuis une cinquantaine d'années qu'on est là. Puis l'Égypte est un... On appelait ça le Paris de l'Orient. C'était super beau, c'est féerique.
Ouais.
Mais quand on est d'une famille francophone chrétienne dans un pays arabe musulman, c'est un peu difficile de trouver sa place.
Ouais.
Alors, on a heureusement très bien trouvé notre place ici.
Et vous êtes arrivé au Canada, puis vous êtes très bien intégré, là. Docteur Amir Sabongui, est-ce que c'était difficile lors de vos premiers jours ici au Canada? Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours ici, du moment où vous avez quitté l'Égypte, puis vous êtes arrivé à Montréal?
Oui. Quand on a atterri à Montréal dans un quartier très populaire, un quartier qui ressemble pas mal aux Nations Unies.
Ouais.
Alors, j'ai jamais senti, parce qu'on était tous immigrants, on parlait tous différentes langues, les Jamaïcains, les Haïtiens, les Vietnamiens qui arrivaient. Fait que c'est vraiment un melting pot de toutes les ethnicités. Puis récemment, en fait, j'ai un frère qui est comédien aux États-Unis, puis il m'a demandé « Comment est-ce que tu composes à être un homme de couleur, tu sais, dans le monde corporate blanc? » J'ai dit « Je suis un homme de couleur. » Je ne savais pas. Je l'ai appris récemment que j'étais un homme de couleur parce que je ne me suis jamais identifié par ce qui me différencie. Je me suis toujours identifié plus par ce qui nous rassemble.
Ouais.
Notre humanité partagée, nos expériences, nos espoirs partagés.
Ouais, c'est ce que je retenais de vous quand je vous ai rencontré pour la première fois. Vous m'aviez marqué. Puis c'est drôle parce que je me retrouve un peu en vous parce que moi, je suis né au centre-ville de Québec. Puis effectivement, il y avait beaucoup d'immigrants au centre-ville de Québec. Mais nous étant enfants... c'était normal d'avoir des gens de différentes couleurs autour de nous. Là. C'était tout à fait normal. Puis c'est rendu au secondaire où là, j'ai côtoyé des gens des banlieues où là, ces gens-là faisaient une différence entre moi puis mon chum, Alexis, qui était noir, alors que là, je savais qu'il était noir, mais je m'étais jamais arrêté au fait qu'il était noir, tu sais. Et là, les enfants ont fait comme une différence au secondaire. Fait qu'il y en a qui étaient méchants, il y en a d'autres qui étaient très gentils. Mais effectivement, je me retrouve un peu dans vos propos, c'est que tant aussi longtemps qu'on se le fait pas dire, on le sait pas là, qu'on est différent.
Non. Et même que mon père voulait vraiment qu'on soit des citoyens internationaux, qu'on puisse...
Ouais.
Je pense que lui, il avait appris l'importance de pouvoir, ben, au pire des cas, fuir un pays si tu dois, puis te rendre utile et productif dans la société, ta société d'accueil. Alors, dans une famille francophone, mais à l'école en anglais. Puis mon premier prof en première année, C'était une grande madame jamaïcaine. Je me souviens encore de son afro qui était à peu près 2 pieds. Peut-être qu'à 5 ans, tout le monde a l'air des géants. Mais quand j'ai commencé à parler anglais, j'ai commencé à parler avec un accent jamaïcain. Alors même aujourd'hui, je suis capable d'aller puiser dans mes petits buckets, mes racines
Ben
langagières,
oui, ça fait très
c'est
cool.
de
Puis
l'accent.
vous avez fait l'armée canadienne?
Ouais, mais tu sais, regarde, désolé à toutes les mamans au cœur tendre, mais la testostérone à l'adolescence, ça joue des tours sur les jeunes hommes. Hein. Fait que du haut de mes 19 ans, un beau matin, je suis allé voir ma petite maman, je lui ai dit, Mom, je suis un homme maintenant. J'ai besoin d'aventure. Elle dit, Oh chérie, c'est tellement cute. Voilà 20 $ pour aller au cinéma avec tes amis. Je dis, Non, ma, j'ai joué la Marine Royale Canadienne. C'est cool, ils m'ont donné un uniforme sexy comme James Bond, puis ils vont m'apprendre à faire des choses tripantes. Et là, elle dit, Oh my God, pourquoi je l'ai amené au monde, ce garçon? Il va m'achever. Oh, on a fui un pays pour pas que tu fasses la guerre. C'est quoi ton problème? Alors, oui, mais je dois dire que. Ce genre d'expérience formatrice jeune nous aide, ben, premièrement, à fracasser les plafonds vitrés qu'on s'impose, outrepasser nos limitations, vraiment, c'est pas découvrir c'est quoi notre potentiel. Alors, je sais pas si j'aimerais ça si mon fils s'inscrivait dans les forces armées aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait quand même, tu sais, les valeurs, la discipline. La capacité de toujours pouvoir compter sur
Ouais.
toi, être quelqu'un de solide sur qui les gens peuvent compter. Je pense que ces valeurs-là ont besoin d'un milieu de transmission, puis on le perd ces jours-ci.
Entièrement d'accord avec vous, mais je veux dire, de maintenir une discipline, qu'elle soit physique ou encore mentale ou encore matérielle, quand on se lève le matin, on fait notre lit et tout ça. Tu sais, moi,
Oui.
je regarde mes gars, des fois, je leur demande de faire leur lit, puis c'est comme si j'étais le pire père de la planète.
Ah, c'est
Heureusement, tu
sûr.
sais, l'armée canadienne a formé énormément de gens qui étaient un peu irresponsables, qui sont devenus responsables. J'ai des amis qui sont maintenant à la retraite de l'armée canadienne, puis tu sais, sans l'armée, eux, ils savent pas trop où est-ce qu'ils se seraient retrouvés parce que c'était des gens qui étaient un peu comme vous, rempli d'adrénaline, puis il y avait le goût que ça bouge. Puis des fois, ben, du monde comme ça, il faut vraiment que tu les encadres au début, ça, parce que sinon, tu peux les perdre rapidement. Vous avez été pour l'armée pendant combien d'années?
Ben, j'étais 14 ans, puis je te dirais que la chose que j'ai le plus, en fait, mes enfants m'ont demandé dans un grand moment de complicité, Ah, papa, c'est quoi les leçons les plus importantes que tu as jamais apprises dans la marine? Je dis, Ouais, c'est une bonne question, c'est dit. Je dis, Les enfants, je pense que la leçon la plus importante, c'est de toujours savoir de quel côté le vent souffle. C'est, Ah, oh, oui, papa, comme ça, si jamais t'es perdu dans une tempête, tu peux utiliser ta boussole pour naviguer, puis retrouver ton chemin, puis revenir à la maison, hein? Je dis, Non, les enfants. Parce que pendant la tempête, quand tu as besoin de vomir d'urgence, tu veux jamais vomir contre le vent. Je dis ça un peu en blague, mais je pense que la chose que j'ai le plus gardée, c'est la capacité d'être à l'aise dans le malaise. Alors, je vais intentionnellement aller me foutre dans des situations inconfortables juste pour que je devienne jamais trop fragile, anti-fragile, en fait. Fait que. Exemple, aujourd'hui, c'est la fête des mères dimanche, puis là, on prépare le menu, puis j'ai dit, non, moi, je vais jeûner cette fin de semaine. Dit, mais pourquoi tu ne vas pas manger? Parce que j'ai vraiment faim, puis si je manque un repas, ça me donne des maux de tête, puis j'ai dit, non, c'est pas vrai que je vais être aussi fragile que ça, que manquer un repas va me désamorcer complètement. Je déteste le froid, alors je suis allé en Pologne l'année dernière plonger dans des lacs de glace avec le Iceman, t'sais, faire des escalades à moins 15
Vous vous
juste en
mettez
t-shirt.
intentionnellement dans ce type de situation, de
Oui,
situation-là. Ah oui.
intense. Je sais, c'est bizarre.
Ben non,
Oui.
c'est pas bizarre. En fait, on découvre, quand on fait ce genre de truc-là, on découvre des choses chez nous qu'on n'aurait jamais pu découvrir.
Ben, c'est vraiment, puis je pense psychologiquement, c'est important, c'est que souvent, trop souvent, et on pense que, OK, il faut juste qu'on place tous nos pions, puis qu'on vive, on crée l'environnement parfait, puis la situation parfaite pour qu'on puisse être heureux. Et moi, je me dis, non, il faut être heureux même dans le chaos puis l'inconfort total. Alors, même, tu sais, dans un bain de glace en train de mourir, je suis en train de rire. Puis même, tu sais, en train de jeûner ou, tu sais, ça fait 7 jours que j'ai rien mangé, ben il y a comme un... Je sais pas, c'est comme une genre de souveraineté personnelle que tu développes
Ouais.
où tu peux être... C'est pas l'inconfort qui va miner ton bonheur personnel.
Puis, docteur Georges, est-ce que dans l'armée, vous avez fait différentes missions?
Ben en fait, Moi, je voulais apprendre à conduire des navires. J'adore la mer, même aujourd'hui, là, être assis devant
Un océan.
un lac, quelque chose, il y a quelque chose de très calmant. C'était moins calme pendant la tempête, mais j'ai un frère qui a fait l'armée. Puis moi, j'étais à la marine en même temps. Fait que lui, il était au Nouveau-Brunswick à Gagetown, faisait son entraînement. Moi, j'étais à Victoria, à l'Académie navale. Puis là, il prenait des photos avec ses chums pour montrer comment ils sont tough dans l'armée. Ils dorment dans la boue, ils mangent des moustiques. T'sais, il m'a envoyé des photos. Fait que moi, j'attendais la plus belle journée en mer quand les dauphins venaient jouer dans nos vagues. Puis le capitaine décidait qu'on allait faire un barbecue. Puis là, je prenais des photos de ça et je lui ai envoyé.
Oh wow. OK. Puis
Ouais.
je veux juste clôturer là, sur le dossier de l'Égypte parce que moi, c'est un pays que j'adore. Là. J'ai jamais eu la chance de le visiter, mais j'ai regardé des documentaires sur l'Égypte. Moi, je suis un fan d'un pilleur de tombes, mais en même temps, quand on était jeune, on nous l'a pas présenté comme ça, Indiana Jones. Là. Mais en résumé,
Oui, c'est
c'est
ça.
ça. Indiana Jones, c'est un pilleur de tombes. C'est un endroit où il y a tellement d'histoires. Est-ce que vous avez eu la chance d'y retourner?
Ben, je suis retourné pour la première fois il y a une dizaine d'années, puis c'était fascinant parce que c'était un voyage pour moi qui était une genre de découverte personnelle. Je me découvrais à travers ce voyage. J'ai découvert quelque chose, c'est la chaleur moyen-orientale, ou tu sais, un grand milieu urbain nord-américain, quelqu'un vient te parler, c'est ce que, hey, pourquoi tu me parles, qu'est-ce que tu veux? Mais là-bas, la chaleur humaine, ils ont tellement peu que leur seule richesse, c'est les relations humaines qu'ils ont. Alors, je me suis beaucoup découvert. J'ai découvert d'où vient mon sens d'humour, d'où vient ma capacité de rire face au trauma de la vie incontournable, l'importance que je place à l'humain toujours à l'avant-plan de ma pensée, mon genre de mindset tribal où, tu sais, si jamais tu as des amis moyen-orientales, là,
Ouais.
si tu prends juste, tu te sers deux, trois fois parce que tu n'as pas aimé ce que tu as mangé, là, c'est maman, il n'a pas aimé, il a juste pris trois fois l'assiette, là, tu vas mourir. Alors, j'ai découvert que ce n'est pas anormal. Il y a des pays où les gens sont comme moi. Puis en même temps, ça fait tellement longtemps que je suis parti que je ne parle plus comme un Égyptien parce que mon vocabulaire, il date d'une cinquantaine d'années, puis j'ai le vocabulaire d'un enfant de 4 ans. Fait qu'il pense ou bien non, j'ai un trouble mental. Qui me traite avec beaucoup de compassion et de
Mais est-ce
patience,
qu'il vous
ou
voit comme un, tu sais, dans votre culture, est-ce qu'il vous voit comme un Américain, exemple, qui est de passage en Égypte? Est-ce qu'ils vous ont vu comme étant un Égyptien qui revenait en Égypte ou ils ont vu comme un touriste, tout simplement, par votre
ben,
démarche,
ni
par
l'un
la
ni
façon?
l'autre, en fait,
OK.
c'est un peu triste à dire, puis il y a sûrement beaucoup de gens dans la diaspora de plein d'autres pays qui vivent ça, ils nous voient un peu comme des traîtres
Ah oui?
utiles.
OK.
On est des traîtres parce qu'on a quitté le pays, on les a laissés flouer dans le trouble, mais en même temps, je pense que l'économie de la plupart des pays qu'on a quittés quand on a dû, là, l'économie, c'est par la diaspora, les membres de famille qui ont quitté puis qui continuent à
Envoyer
envoyer.
de l'argent, ben oui.
J'ai des amis cubains que c'est la même chose. Si tu n'as pas un membre de famille en Outre-mer qui fait vivre toute la famille ou même faire vivre tout le village, alors c'est comme un mal nécessaire. T'sais, ils nous reconnaissent comme des cousins lointains perdus qui reviennent au berceau, mais en même temps, y a un genre de tension. Ouais.
Docteur Sabongui, je vais faire un parallèle avec une histoire que j'ai entendue de chercheurs qui racontaient que parfois dans l'ADN, il peut se transmettre des choses qu'on n'était pas trop certain au départ, mais de plus en plus, on est conscient que dans l'ADN, il y a des trucs qui se passe, puis on sait qu'un jour on va découvrir exactement c'est quoi, mais que là on est capable d'émettre certaines hypothèses qu'on remet constamment en doute. Mais ils ont commencé avec des animaux, ils se demandaient, les chercheurs, comment ça que les animaux à la naissance connaissaient qui étaient leurs ennemis ou qui c'était quoi les éléments autour d'eux qui pouvaient être dangereux, puis ils ont commencé à soupçonner que ça se transmettait par l'ADN. Est-ce qu'au niveau de l'être humain, ça peut être la même chose? Les traumatismes d'un peuple, j'avais entendu, moi, de jeunes autochtones autour de 15 ans dire « Je revis les traumatismes du passé de mes ancêtres. » Là, vous comprenez que moi, je suis blanc comme une pinte de lait, là. Puis là, je regarde l'Autochtone qui dit, attends un peu, là, lui, il est en train de me dire qu'il vit les traumatismes de ses ancêtres en lui. Attends un peu, vous n'avez pas connu vos ancêtres pour la plupart, là. Comment vous pouvez vivre ça, l'arrivée des premiers colons? Et en entendant ce chercheur-là, qui faisait un lien entre l'ADN puis les trucs qui sont déjà acquis à la naissance chez certains animaux, je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait être possible chez l'être humain aussi. Les stress post-traumatiques qu'un être humain peut vivre, je ne sais pas, moi, dans sa vingtaine, est-ce que lorsqu'une fois qu'il a des enfants, est-ce qu'il peut transmettre ça à ses enfants sans le savoir?
Bien, ce que j'adore de la science, c'est que des fois, c'est encore plus cool que la science-fiction. Puis un des phénomènes, ou en fait deux des phénomènes, un du domaine de la neuroscience puis l'autre du domaine de la génétique qui se chevauchent pour répondre à ta question, c'est le... Imaginons que le cerveau humain, c'est comme un ordinateur. Alors, on a le hardware et on a le software. Alors moi, mon domaine, la psychologie, c'est d'essayer d'aider les gens à faire un genre de mise à jour de leur logiciel de la vie sur lequel ils vont naviguer dans la vie. Mais quand on change le logiciel, notre façon de penser, notre façon d'agir et de réagir, ben ça change littéralement les connexions dans notre cerveau. Alors ça, ce phénomène s'appelle la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau que quand on fait des mises à jour du logiciel, ben ça change l'ordinateur, le câblage neuronal va créer des nouvelles connexions. Alors ça, c'est la neuroplasticité, puis c'est constant. Alors le plus qu'on fait quelque chose... de façon routinière ou par habitude, le plus que ce câblage se bonifie. Et là, les changements dans notre cerveau, par un phénomène qui s'appelle l'épigénétique, ils vont s'inscrire à même notre code génétique. Alors, quand on vit, par exemple, un traumatisme, puis on veut étudier la transmission intergénérationnelle des traumatismes, et même peut-être la transmission ancestrale des traumatismes, alors, imaginez que nous, on marine dans plein de stress, alors les hormones de cortisol et d'adrénaline. Alors là, les parois du cerveau vont essayer d'absorber tous ces hormones de stress et ces changements dans notre propre cerveau à cause des stress qu'on vit. Ben, ça, c'est la neuroplasticité. Ces changements s'inscrivent dans notre code génétique. C'est comme un genre de série d'interrupteurs. Puis ça va allumer ou éteindre des séquences d'ADN et ces changements-là vont être transmis aux prochaines générations. Et nos enfants sont nés avec une sursensibilité au stress, à l'anxiété, à la dépression.
Okay.
Mais l'avantage de comprendre ce phénomène, c'est que maintenant qu'on comprend comment ça marche pour briser le système, on sait aussi comment le réparer.
Ouais.
Ça veut dire que si par la puissance de notre propre conscience et notre concentration, on change notre façon de penser, on change notre façon de réagir, mais ces changements-là aussi positifs vont faire mariner le cerveau dans tous les neurotransmetteurs positifs de sérotonine, dopamine, ocytocine. Et là, ça va changer notre code génétique. Et ce code amélioré avec nos compétences acquises, avec nos facultés, vont être transmis à nos enfants, puis ils vont être nés plus résilients et plus mobilisés face aux stresseurs au lieu de... C'est dans un genre de carrefour décisionnel quand on a l'impression de s'effondrer sous le stress au lieu de se mobiliser.
Ouais.
On veut diminuer le plus cette tendance à s'effondrer et vraiment renforcer la tendance à se mobiliser pour faire face aux stresseurs. Okay. Puis en fait, c'est quand on dit les épreuves, chaque épreuve exige une nouvelle version de nous-mêmes, c'est pas juste philosophiquement vrai, là, c'est pas psychologique, c'est littéralement vrai. On n'est plus la même personne parce que quand on est face à une situation qui outrepasse nos capacités, bien, la distance entre les deux, ça s'appelle la douleur. Puis la douleur est un super motivateur. Fait que, si on commence à prendre un parcours d'évitement, ben on va renforcer ce parcours d'évitement, puis ça va devenir notre genre de default setting de la vie. Là. On va juste tout éviter, tout ce qui nous rend un peu mal à l'aise, puis on va toujours chercher le confort. Mais au contraire, si on cherche l'inconfort, puis on se force à augmenter nos capacités pour répondre aux exigences de la situation, ben ça devient un nouveau parcours d'affronter, de surmonter, et ça devient un genre de parcours de croissance constante.
Okay.
Puis je me l'inflige, je dis toujours à mes patients, je sais que ce que je te demande de faire, la seule chose pire que faire de la thérapie, là, c'est pas faire de thérapie, parce que là, t'es magané pour la vie. Mais il n'y a rien que je te demanderai de faire que je ne me suis pas infligé 10 000 fois pire.
Ouais,
Alors,
puis
moi,
d'ailleurs, on va en parler de ça, docteur Sabonguy. Juste être sûr de bien comprendre, là, parce que
Oui.
je regardais le documentaire. Moi, j'ai pas de notion scientifique comme vous. J'ai pas les études que vous avez non plus. Puis là, j'en revenais pas, moi, que tu sais, il y a des animaux qui naissaient, puis c'était transmis directement dans l'ADN. Qui sont tes ennemis? Qu'est-ce qui est dangereux? Oui, tu peux aller dans l'eau, tu sais nager.
Oui.
Tous ces trucs-là. Mais là, je me disais, est-ce que une grand-mère qui aurait eu une expérience où elle était sur le point de se noyer, puis elle avait développé, suite à cette épreuve-là, une peur épouvantable de l'eau, est-ce qu'elle pouvait transmettre ça à ses enfants? Est-ce qu'elle pouvait transmettre ça à ses arrière-petits-enfants? Parce que ça arrive des fois qu'on va rencontrer des gens qui vont dire, tu sais, moi, il m'est jamais rien arrivé en avion, là, mais je veux pas prendre l'avion, j'ai peur de ça. Est-ce que ça peut arriver de nos ancêtres, ça, ces peurs-là?
Ben, c'est sûr que oui, parce
OK.
qu'on a juste besoin de. Tu sais, la psychologie, des fois, j'appelle ça la science du gros bon sens. Tu sais, toute l'histoire de grand-mère, les observations qui sont comme évidentes, ben là, on va passer des années dans une tour d'ivoire universitaire pour faire des expériences pour prouver que finalement, c'est pas juste des histoires de grand-mère. Alors, ces histoires de transmission, je ne sais pas si aussi spécifiques qu'une phobie spécifique, peur de l'eau, peur d'un avion. Des expériences spécifiques où dans une ancienne vie j'ai été noyé. Je ne sais pas si c'est aussi spécifique que ça, mais je sais qu'en général, oui, on va hériter en fait les blessures de nos ancêtres et on va les transmettre nos blessures à nos enfants. Et c'est pour ça que tu sais, guérir, s'améliorer à l'intérieur de notre vie, c'est comme un cadeau qu'on fait quasiment pour guérir nos blessures ancestrales, puis pas les transmettre, puis c'est comme un genre de cadeau qu'on offre à nos descendants aussi, là.
Mais là, docteur
Il
Sabonguy,
y a tout
là,
le monde.
moi,
Oui,
je me suis
vraiment.
déjà reproduit. J'en ai deux, là.
Trop tard pour
Si je
ça.
change, là, ça va-tu avoir un impact sur mes enfants? Ils vont être plus tranquilles? C'est ça que vous me dites, là?
Mais là, Thomas, c'est parce que là, si tu veux les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles.
On va commencer par les mauvaises.
Ben, en fait, regarde, moi je suis un scientifique, je suis un militaire, je suis un gars super rationnel, mais en
Ouais.
tant que psychologue, des fois dans mon bureau, je suis témoin de miracles qui arrivent. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand quelqu'un se prend en main puis dit, OK, ben moi c'est trop tard, j'ai fucké mes enfants là parce que je me suis pas pris en main avant de reproduire. Mais il y a un autre phénomène très fascinant et surtout les enfants sont très sensibles à ça, c'est qu'il y a 20% des petits neurones dans notre cerveau qui sont comme des petites antennes électromagnétiques. Ça s'appelle des neurones miroirs. Fait que quand on est en présence l'un de l'autre, nos cerveaux ont tendance à se synchroniser puis forment des images miroirs l'un de l'autre. Alors, si toi, tu as une mauvaise journée au bureau puis tu arrives à la maison marabout, c'est sûr. Tu sais, les journées que tu arrives là, tu dis là, il faut juste que ça aille bien à la maison parce que je t'ai écœuré de ma journée. C'est sûr que ça va mal aller. Parce que tout le monde te ressent, puis là, ils ne comprennent pas, là, papa, pourquoi tu ne portes pas un bonhomme sourire, pourquoi tu ne portes pas un bonhomme fâché, qu'est-ce qu'on a fait? Puis là, eux sont stressés, tendus, puis toi, tu fais semblant de ne pas être stressé, tendu, mais ils te ressentent pareil.
Ouais.
Puis ce qui est encore plus stressant pour l'enfant, c'est l'incongruité. Tu dis, non, ça va bien, là, arrêtez de m'achaler. Alors, si tu te dis, ben moi, je suis un genre d'antenne émettrice. Du climat familial, puis moi je me prends en main pour être, tu sais, arriver toujours au meilleur de moi-même, j'ai un genre de, je sais pas, un protocole de décontamination après une mauvaise journée, là, OK, il faut que je pense des pensées positives, il faut que je rejoue des beaux moments où j'ai eu un impact positif sur quelqu'un aujourd'hui, il faut que j'essaye de. Moi j'écoute des humoristes dans l'auto en revenant à la maison, tu sais, parce qu'en tant que psychologue, j'ai jamais de bonne journée à la maison, tu sais. Mais si j'arrive avec ce bagage, c'est sûr que les enfants vont me ressentir, fait que je me crinque là, avec du positif, 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 puis ils le
Ils
ressentent. Alors,
ressentent. OK.
génétiquement, je ne sais pas si c'est trop tard, mais dans le moment présent, c'est sûr que ton attitude, ton énergie, et tu le sais, tu sais, on a des amis qu'on adore parce que juste être en leur présence, pff, ils nous remontent le moral,
On
puis
est
on a
mieux,
des amis
ouais.
que j'appelle des gens de. C'est comme si être en leur présence, c'est la chasse énergétique et toute l'énergie se draine. Puis encore une fois, c'est des neurones miroirs. Alors, tu peux les aider à créer un environnement plus positif. ils vont mariner dans les émotions positives, leur cerveau va avoir un parcours plus positif et tes petits-enfants vont être moins tannants. De toute façon, les parents, on est nuls pour élever les enfants, on est trop stressés, fatigués. Les grands-parents, ils ont compris.
Ben oui, ben c'est ça. Ils ont compris. Ils peuvent avoir ton enfant pendant 8 heures, après ça, ils te leur chip une fois qu'ils sont tannés, puis là, ils vont se
Hein?
reposer. Ben oui,
Ouais.
le
Puis arrive
bonheur.
une belle journée de Nutella parce qu'ils ont juste soupé ça.
Le bonheur d'être grand-parent. Comment le docteur Amir Georges Sabongui, qui était dans Marine, qui rêvait d'être commandant d'un navire sur l'océan, comment il en est venu à s'intéresser à la psychologie dans sa vie?
C'est littéralement ça, en fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a des expériences dans la marine qui m'ont vraiment marqué. Puis une des expériences, c'est que on était en opération à un moment donné, puis il y a un de mes matelots qui mangeait son lunch tout seul. Puis ça m'avait juste marqué parce que, tu sais, on essaie de promouvoir la camaraderie, l'esprit de corps, etc. Puis 2 semaines plus tard, ben, il fallait qu'on appelle un hélicoptère parce qu'il était suicidaire, puis ça allait pas bien, puis vraiment, il fallait le transporter à l'hôpital d'urgence parce que, tu sais, quelqu'un de suicidaire en mer, c'est dangereux pour le navire au complet. Puis ça m'avait vraiment marqué que j'ai dit, mais c'était quoi le premier signe que j'ai remarqué que ce gars-là allait pas bien? Puis le premier signe, quand j'ai reculé mon horloge, c'était, ouais, c'est lui qui était assis tout seul en train de manger son lunch. Fait que, tu sais, être dans la marine, jeune homme, c'est super cool, mais quand on veut avoir une vie familiale un peu plus stable. Alors, je commençais à préparer ma retraite des forces lentement, puis je me dis, OK, ben si je retourne à l'école, qu'est-ce que je ferais? Je dis, ben moi, je veux étudier ça. Je veux étudier qu'est-ce qui arrive. Tu sais, on parle de budget militaire pour acheter de l'équipement, mais tu sais, il y a des humains. Fait que comment on peut équiper des militaires pour les protéger des séquelles de l'impact de ce qu'on leur demande de faire? Parce que si tu demandes à des gens de se foutre dans un milieu où tu ne peux pas les protéger des dangers devant eux, fait qu'on va essayer de les équiper le plus possible, les former, les entraîner, mais est-ce qu'on leur donne un bagage pour les protéger des cicatrices invisibles qu'on peut tous subir? Et c'est là où j'ai commencé. Et initialement, c'était juste ça, c'est de regarder, OK, c'est quoi les facteurs de risque ou de résilience qu'on peut prédire là, très loin en avant, OK, cette personne-là va s'épanouir dans un, tu sais, un monde de stress, un monde exigeant, puis cette personne-là, elle va être plus précarisée ou plus fragile. Puis c'est ça que j'ai étudié pendant une dizaine d'années. J'ai suivi comme à peu près 1 000 soldats pendant un an de déploiement, en faisant plein de tests et à 3 reprises au début, au milieu, puis à la fin de l'année, en voyant qu'est-ce qu'on aurait pu prédire, c'est qui allait mal aller la fin de l'année. Ceux qui développaient des problèmes de stress post-traumatique, qui okay, reculons, c'était quoi leur profil de personnalité. Ceux qui s'épanouissaient puis graduaient, c'est top de leur cours de formation militaire. OK, c'était quoi les profils de personnalité qu'il y avait qui prédisaient justement quel parcours les gens allaient entreprendre. C'est vraiment là que ça a commencé, la
OK,
jeunesse.
mais est-ce que vous avez commencé vos études en même temps que vous étiez dans la marine?
Oui,
OK,
exact. Fait que
wow.
moi, je préparais ma porte de sortie, puis j'étais dans la marine encore et je faisais l'université aussi. Alors, tout était très, très, très compressé.
Puis est-ce que vous êtes, là, je rentre dans vos affaires personnelles, mais est-ce que vous étiez capable de faire financer vos études par la marine à ce moment-là?
Non, mais j'étais l'étudiant le plus riche, mais le matelot le plus pauvre. T'sais? Littéralement. Parce que quand tu fais un PhD, on oublie que ça se mesure en décennies. Combien de décennies ça va te prendre pour apprendre?
Ouais.
Fait que jusqu'à la mi-trentaine, tu sais, un étudiant, t'as pas de salaire, mais c'est correct, je travaillais à temps plein, puis je faisais des études à temps plein, puis j'avais pas de revenus comme étudiant, mais j'étais riche comparé aux étudiants parce que, tu sais, j'avais un salaire militaire, mais c'est pas beaucoup, c'est peut-être 30, 35 000 piastres.
Ouais.
Puis, ouais, jusqu'à ce temps que je finisse mon PhD, là, c'était, ben, je savais pas que j'étais pauvre parce que j'avais une richesse intérieure. C'est
Oui,
ça
c'est
que j'ai
ça.
appelé ma richesse intérieure.
C'est ça. Mais quand même, c'est faut le faire. Vous avez travaillé à temps plein tout en faisant votre PhD. Je veux dire, des fois, il devait y avoir des heures de sommeil qui manquaient. Puis les gens autour de vous, là, vous étiez peut-être un conjoint, vous étiez peut-être un mari, vous aviez peut-être des enfants à l'époque, je ne sais pas. Ça devait être compliqué d'essayer de faire avancer, bon, sa carrière dans la marine, mais aussi sa carrière pour être le futur psychologue que vous êtes devenu.
En fait, La marine est, ou les forces armées en général, ça fait 10 000 ans qu'ils savent comment former quelqu'un. Puis ils sont devenus très, très bons pour deux choses. Ils sont devenus très bons pour prendre un ado du sous-sol de sa maman puis le transformer en, tu sais, en citoyen solide. Puis on peut faire ça en 10 semaines. Envoyez-nous vos enfants là, qui sont en train de jouer au Nintendo dans le sous-sol. 10 semaines plus tard, on vous renvoie un citoyen solide. L'autre chose, c'est qu'on apprend l'efficacité. On devient hyper efficace. Alors, je pense que ce bagage, cette expérience de vie comparée aux autres étudiants, parce que tu sais, tu es dans un genre de, je sais pas, à l'université, tu es protégé, tu es stressé parce que tu as deux examens le même jour. Non, ça, c'est pas stressant. Moi, je suis stressé aujourd'hui parce que quelqu'un essaie de nous tuer. Deux examens le même jour, c'est comme c'est un dimanche barbecue avec la famille. C'est
Ouais.
pas stressant. Fait qu'on devient hyper efficace. Il y a pas de moment perdu à faire du Netflix and chill.
OK.
D'ailleurs, j'ai appris ça très tard dans la vie. Peut-être ça, c'est un de mes points faibles dans la vie. Je ne sais pas comment vraiment relaxer. C'est difficile. Ou quand
Mais
les gens disent hey, ça te tente-tu? Je dis, explique-moi ce mot tenter. C'est quoi ce concept-là? Je ne comprends pas.
puis là,
Qu'est-ce qu'il
vous
faut?
êtes sorti de la marine à quel âge?
J'avais au. Attends. 32 quand je suis sorti de la marine, puis j'ai fini mon PhD à 36.
Puis est-ce que ça a été complexe revenir à la vie civile? Ouais.
Il fallait que je réapprenne à me civiliser. Il fallait que je réapprenne que juste parce que tu ordonnes quelqu'un à faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. J'ai dû apprendre que les gens ont des vies personnelles.
C'est ça, avec les filles, c'est pas très vendeur, ça. Leur dire quoi faire, là,
Non,
ça.
non, non, non,
Ils s'en
non.
vont rapidement, je pense.
T'sais, le concept, t'sais, la flotte part demain matin à 8 heures. Fait que tu passes ta fin de semaine à préparer les plans pour la flotte pis tout, pis parce qu'on part. Fait que là, tu dis à quelqu'un, OK, voici notre projet, voici ce que tu dois livrer la semaine prochaine. Non, mais c'est parce que ça ne me tentait pas, il faisait beau dehors, puis on est allé danser tout nu en regardant l'éclipse, puis c'est comme ah. Mon père était crampé de voir ma dysfonction sociale de. Il disait, ah, tu penses que tu es encore commandant, toi? Ah! Ah!
Un psychologue dysfonctionnel.
Ah, tout à fait, ouais. Ouais. Puis même aujourd'hui, c'est difficile pour moi de comprendre, OK, quand on souffre puis on veut pas souffrir, il y a des choses qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Puis des fois, c'est juste le côté de. Quand les gens ont de la difficulté à se mobiliser puis de se prendre en main, c'est pas toujours facile pour moi en tant que psychologue. Fait que je dois respirer puis je dois comprendre que c'est un processus. C'est comme, mais tu sais, à chaque fois que tu fais ça va mal. Puis à chaque fois que tu fais ça, tu te sens mieux. Fais moins de ça puis plus de ça.
Ouais.
Non, je pense pas, mais je sais pas, ça me tente pas. Ah!
Ouais, je comprends ce que vous devez ressentir une fois de temps en temps. Pendant la pause tout à l'heure, on se parlait, vous et moi, puis vous, j'ai trouvé un parallèle qu'on peut avoir, vous et moi, dans notre vie, c'est qu'on se met en difficulté. Moi, j'ai toujours été considéré comme un gars très débrouillard dans à peu près toutes les situations parce que j'ai tout le temps été dans des situations où je pensais pas me mettre là-dedans, mais je me suis mis là-dedans, je suis tombé là-dedans. Tu sais, au cégep, extrême pauvreté, là. Donc, comment passer ma semaine avec une caisse de bière et du Kraft Dinner. On se mettait dans le danger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il n'y a rien dans le frigidaire, il y a tout le temps quelque chose à manger. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de très difficile, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on élève nos enfants, on essaie de faire en sorte qu'ils subissent le moins de douleurs possible, qu'il y ait le moins de difficultés possible. Est-ce que ça va faire des gens qui, au niveau mental, vont être capables de trouver la vie agréable quand même, alors qu'ils ont toujours connu une vie agréable? Ils n'ont jamais su c'était quoi la misère?
Ben, je trouve la question brillante, tu sais, puis j'ai une de mes patientes récemment qui me demandait, là, je comprends pas, là. Est-ce qu'il faut qu'on soit plus dur avec nous-mêmes ou est-ce qu'il faut qu'on soit plus doux avec nous-mêmes? J'ai dit, ouais, bonne question. J'ai réfléchi un peu à ça. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que ça prend des gens forts pour construire une société confortable. Mais les sociétés confortables développent des gens faibles. Puis les gens faibles créent des sociétés inconfortables. Et on a juste besoin de regarder dans le chaos à quelle vitesse le monde est parti en chaos récemment. C'est comme si tous les efforts et les sacrifices des générations précédentes ont créé une société tellement confortable qu'on est devenu trop faible. Et là, la société s'est désagrégée instantanément. Alors, à un niveau individuel, on ne va pas faire un débat politique sur le monde dans lequel on vit, là, mais je pense qu'on vit les conséquences d'une société qui a été trop confortable trop longtemps, puis là, on a oublié qu'est-ce que ça prenait pour bâtir une société confortable. C'est bien beau de dire, ben, on va tout briser. Tu sais, quand je regarde ma nièce et mon neveu, ma nièce de 2 ans qui brise les Legos de mon neveu de 4 ans, je dis, ouais, là, tu l'as brisé, reconstruis ce que tu as brisé. Elle n'est pas capable. Puis elle n'a pas d'appréciation pour tout ce que ça a pris pour construire la tour de Lego. Mais
Ouais.
on fait ça avec la société aussi.
Parce que
Alors,
vouloir que nos enfants soient confortables, je pense que, tu sais, moi, je savais que j'allais avoir des enfants un jour à un très bas âge. Là, je me disais vers 18, 19, 20 ans, je disais, ben, moi, je veux des enfants à tel âge. Je pense qu'on a toujours fait ce genre de projet-là, là, depuis que la planète existe, là, depuis que l'humain est sur Terre, du moins. Ben, moi, je veux des enfants prochainement. Mais mon objectif, c'était que mes enfants vivent dans une belle grande maison. Mon objectif, c'était que mes enfants puissent aller, exemple, à l'école privée. Mon objectif, c'est que mes enfants aient pas de misère avec des gens qui font de l'intimidation. Donc, je me disais, si j'habite dans tel ou tel quartier, je suis susceptible d'avoir des enfants qui se feront pas trop achaler à peu près. Tu sais, on se fait des conceptions des fois qui peuvent être erronées, mais on dirait que l'être humain veut constamment améliorer son sort. Mais rendu là, en 2024, on se rend compte que la vie est tellement facile que la dépression devient très facile aussi, là.
exact. Puis, tu sais, j'ai une anecdote à partager. J'ai une amie qui a des enfants, puis un jour, ils ont dit à leurs parents, est-ce qu'on est trop pauvre pour manger du Kraft Dinner? Parce qu'on a mangé ça chez nos amis. C'est comme les deux parents sont médecins, tu sais. Mais pour eux, c'est comme ils n'avaient jamais mangé du Kraft Dinner. C'était pas juste exotique, c'était comme, ouais, c'est parce qu'on n'est pas assez riche, hein, pour manger du Kraft Dinner. Puis, on a survécu là-dessus. Mais je pense que cet instinct de vouloir créer une vie confortable, tu sais, donner tout ce qu'on n'a pas eu pour nos enfants. Tu sais, nos enfants n'ont jamais connu ça, là, d'hériter les vêtements des grands frères et grands sœurs, des cousins, mais nous, c'était tellement normal. Alors, je pense que ce désir de leur offrir tout ce qu'on n'a pas eu, une vie confortable, je ne sais pas. J'espère juste qu'ils vont aussi hériter le désir de faire des choses difficiles puis de développer les capacités de construire le genre de vie qu'ils veulent. Puis moi, ce qui m'inquiète, nous, on a travaillé très, très fort pour avoir une meilleure vie ou offrir une meilleure vie que ce qu'on a eu pour nos enfants. Puis ce que je constate aujourd'hui, c'est que les jeunes vont malheureusement probablement offrir une moins belle vie à leurs enfants que ce qu'eux ont reçu parce qu'ils n'ont pas développé les capacités pour bâtir cette vie, ils l'ont juste hérité. Mais si tu hérites quelque chose, c'est pas comme savoir comment construire.
Oui, mais la
Alors,
bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience ce soir, on est un auditeur, on écoute Boulevard, on entend le docteur Amir Georges Sabonguy. Peut-être qu'on peut agir peut-être différemment avec nos enfants. Plutôt que de leur donner un produit fini, on peut peut-être prendre divers produits puis monter ensemble avec nos enfants pour que ça fasse en bout de ligne un produit fini puis que l'enfant dise, OK, moi j'ai bâti ça. Je suis capable d'être
oui.
parti. Je suis parti de rien avec des divers matériaux, puis j'ai réussi à bâtir ça. Nos grands-parents le faisaient, nos parents le faisaient, puis on dirait, ma génération à moi, ben on l'achète chez Canac. Tiens, ça, c'est ta cabane dans l'arbre.
Oui, mais
Plutôt
tu
que
sais,
de la monter, tu sais.
je vais surenchérir là-dessus. Mon fils, un jour, arrive du haut de ses 10 ans, puis il voulait acheter un nouvel ordinateur, tu sais, un ordinateur gaming. Je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais c'est comme, je ne vais pas t'acheter un ordinateur comme ça. Mais mon frère, son oncle, parce que c'est toujours les oncles qui sont cool, il dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque semaine, on va travailler, on va faire des corvées, on va voir s'il y a des gens qui ont besoin d'aide. On va prendre l'argent que tu as fait, puis on va construire ton ordinateur une pièce par semaine. Puis il y a deux choses super beaux là-dedans. C'est exactement comme tu dis, au lieu de lui donner un ordi, il l'a construit. Fait qu'il comprend vraiment comment ça fonctionne, là, les entrailles internes de l'ordinateur. Puis l'autre chose, c'est que tout le monde voulait qu'il gagne. Fait que tu sais, mes parents ont dit, ben regarde, c'est le printemps, on a besoin de faire laver les fenêtres. OK, cool. Mais tu sais, tu lui donnes pas 100 piastres par fenêtre qu'il va faire, là. Tu sais, tu lui donnes 10 piastres par fenêtre. Non, mais je veux qu'il réussisse. Il s'en va voir la voisine. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? Je veux faire de l'argent pour acheter un ordinateur. Ben, tu peux laver mon char. Il a donné 100 piastres. Je lui dis, yo, bro, il y a personne qui va te donner 100 piastres.
Ben non.
Mais j'ai dit, je veux juste que tu remarques, quand tu te lèves et que les gens voient que tu as ce feu sacré, puis il y a quelque chose vraiment que tu es prêt à travailler fort pour, tout le monde veut t'aider à gagner. Puis ça, je pense, dans la vie, c'est vrai.
Ouais. Mais sachant ça, docteur Sabongui, est-ce que de votre côté, parce qu'on n'est pas très créatif quand on est toujours confortable, est-ce que de votre côté, vous mettez dans des situations, des fois, dans des situations inconfortables, justement pour ramener le bon vieux docteur Amir Georges Sabongui d'antan?
Ouais, mais tu vois, regarde, je vais te décrire c'est quoi le processus thérapeutique, OK? Tu
Allons-y.
vas voir ton psychologue et tu dis, hey, doc, ça fait mal. Dis, oui, je sais. Montre au gentil docteur où est-ce que ça fait mal. Dis, ici, là, j'ai une blessure ici au cœur. Oh, ouais, c'est horrible, hein? C'est vieux. Ah, oh, oui, ça date de l'enfance. Ouais, si je picosse dans ta blessure, ça fait. Si je prends du sel dans la plaie, ça fait. Good. C'est ça la thérapie, man. Reviens à chaque semaine, puis on va continuer à faire ça jusqu'à temps qu'on guérisse ton bobo. Fait que là, c'est comme tellement pas inspirant pour faire une thérapie, mais je leur dis, mais les bonnes nouvelles, c'est que la seule chose pire que faire une thérapie, c'est pas faire de thérapie. Fait que je vais demander de faire des choses difficiles, qui vont peut-être être douloureuses, mais je veux que tu saches que je vais jamais te demander quelque chose que je me suis jamais infligé 10 000 fois pire. Fait que j'essaie de m'enlever, justement, ma dépendance sur le confort. Si jamais je trouve que je deviens trop confortable, je vais intentionnellement aller me foutre dans la chose que j'aime pas. Alors moi, je suis conçu pour, tu sais, le désert égyptien, je déteste le froid. Alors qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Je suis allé en Pologne me foutre dans des bains de glace, puis une exposition au froid extrême, faire des escalades à moins 15 en t-shirt puis en short.
Puis dans le bain de glace, à quel moment vous vous êtes dit je suis complètement fou?
Ah, dès le premier moment, puis c'est... Parce que là, quand tu te fous dans un bain de glace, c'est l'hyperventilation.
Ben
Fait que
oui.
là, tout ton système nerveux capote, puis tu dis, ce gars-là, il essaie de me tuer. Mais tu es capable de respirer, puis dire, hey, c'est moi le boss ici, je sais que tu veux sortir du bain, mais tu vas rester. Ben, ton corps, il s'assagit. Il dit, OK, fine, cet imbécile, il va pas m'écouter, même si je panique. Puis après 2 minutes, il y a le système parasympathique qui embarque. Puis là, tout à coup, t'arrêtes d'hyperventiler, puis ton corps devient confortable, puis c'est comme ça calme. Puis en fait, c'est un super bon traitement pour la dépression puis l'anxiété, parce que si toi, tu t'infliges ça, là, il n'y a rien que quelqu'un peut t'infliger qui est pire que ce que tu t'es déjà fait.
Ouais. Mais
Fait que c'est un super calme dans l'eau.
le bain de glace,
Oui?
docteur Sabongui, je parlais avec François Lambert il y a de ça quelques semaines, puis je disais à quel point il était fou de faire ça chaque matin, puis il me
Oui?
parlait des bienfaits du bain de glace, puis il m'a jamais convaincu d'en prendre un. Mais savez-vous
Non.
quoi? Je vous fais la promesse ce soir que je vais en prendre un, puis j'en parlerai avec les auditeurs plus tard, peut-être le midi ou peut-être le soir, mais je vais essayer de le faire, juste pour savoir si je vais être capable d'avoir le dessus sur mon corps qui dit sort de là.
Exact.
Parce que
Oh oui.
s'il y a bien
Puis...
quelqu'un qui apprécie les douches chaudes, moi je sais, là, Pierre Fitzgibbon ne m'aimera pas trop, mais moi je prends une douche très chaude le matin et une douche très chaude le soir. J'apprécie mes douches chaudes. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est quand il n'y a pas d'eau chaude. Mais je vais le faire. Je penserai pas à vous pendant ma douche, là, mais après ma douche, je vais dire, je l'ai faite pour Dr. Sabongui, puis maintenant je sais de quoi il parlait.
C'est Thomas, les images mentales peuvent traumatiser. Fait que non, je pense pas moi pendant que tu prends ta douche. Mais promets-moi que tu vas juste rester 2 minutes. Et pendant ton 2 minutes, juste concentre-toi sur ta respiration parce que tu vas hyperventiler, c'est normal. Des grandes expirations profondes. Puis après 2 minutes, tu vas voir, il y a des miracles. Puis si tu veux la science là-dessus, là, c'est bon pour l'inflammation, ça booste ton niveau de dopamine, ton niveau d'énergie. Pendant un 4-5 heures, tu vas être sur un genre de high euphorique avec tous les endorphines.
Ouais.
Bien sûr, tu es plein d'endorphines, ton corps pense qu'il est en train de mourir. Fait que, tu sais, il veut préparer ta mort.
Mais
Mais si tu
je
ne meurs pas,
l'ai. C'est ça.
tu vas me remercier. quartier.
Mais je l'ai fait à plus petite échelle parce que quand j'avais pas de blonde, je partais régulièrement en moto pour des voyages vers les États-Unis, Dr. Sabourgui, puis c'était vraiment rustique, là. J'avais ma moto, puis j'avais ma petite tente une place avec mon sac à
Ah.
dos. Je voyageais vraiment, vraiment au minimum. Puis des fois, ben, je conduisais toute la nuit, puis le matin, parce que j'avais pas nécessairement beaucoup d'argent, le matin, je dormais sur un banc de parc parce que là, il y avait de la lumière. Fait que je me disais, la lumière représente la sécurité, fait qu'il n'y a pas personne qui va venir m'attaquer en plein jour. Puis, mais quand je suis revenu chez nous, le confort que je savais pas que j'avais, je l'ai remarqué tout de suite. Là, t'as un peu une toilette dans mon appartement, t'as un peu une douche, l'eau chaude directement dans mon appartement. Mon lit est extrêmement confortable. On dirait qu'on voit la vie d'une autre façon pendant un certain temps. Mais après ça, ben, la vie fait en sorte que là, on revient dans notre confort. Mais c'est une très bonne idée, ça, des fois, de se sortir de notre confort pour aller voir que effectivement, on est bien, mais on ne le sait pas.
Mais ça, c'est brillant, justement, ce que tu relates. Être dans l'inconfort, puis tu dors dans le froid, tu dors à l'extérieur, tu as des journées où tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger ou si tu vas manger. Puis là, tout à coup, on revient avec beaucoup de gratitude pour les petites choses qu'on prend pour acquis. Puis justement, le plus qu'on s'endurcit, le plus qu'on a de la place dans notre vie pour la douceur, puis l'amour, puis la tendresse. Mais si on est complètement désagrégé puis réactif quand il y a un moindre inconfort, ah, la personne ne va pas parler comme il faut, t'sais, tout le monde est en tort, les gens sont stupides, dégossants, ben là, il n'y a plus de place pour la tendresse, puis l'amour, puis la beauté. Puis c'est un peu un paradoxe. Le plus qu'on s'endurcit, le plus qu'on peut être doux. Et le plus qu'on est mou, ben, le plus que tout nous fragilise puis qu'on capote tout le temps. C'est brillant. J'aurais dû être un psychologue.
Oh, ma blonde vous dirait tout à fait le contraire. Elle me dit que des fois j'ai des belles paroles, mais mes agissements vont pas toujours avec mes belles paroles. Docteur Sabourgui, est-ce que j'ai bien lu? Il y a eu plus d'1 million de participants à vos ateliers?
Ben, écoute, ça fait maintenant 25 ans que je donne des conférences un peu partout dans le monde, puis j'ai été choyé. Puis je vous dirais que le COVID a été particulièrement positif pour moi, parce qu'avant, pour donner une conférence à Halifax et une autre conférence à Vancouver, ben, ça me prenait une semaine au complet. Et pendant le COVID, ben, je pouvais faire ça dans la même journée. Alors oui, depuis les 25 dernières années, j'ai calculé, c'est un petit peu plus qu'1 million de participants à
Mais
travers le monde.
quelle réussite! Quelle réussite quand même!
Ouais, c'est fantastique. Sauf que, tu sais, malheureusement, dans le monde virtuel, quand je donne une conférence à Paris, maintenant, ils veulent le faire virtuellement. Je dis, merde! Je veux aller en personne à Paris, puis je veux faire du virtuel quand je m'en vais en banlieue, mais
Mais ça,
c'est
docteur,
correct.
j'ai l'impression que ça va revenir, ça. Les gens en présentiel, bon, de plus en plus, j'entends des psychologues autour de moi parce que j'ai la chance de faire un métier qui me permet de côtoyer des psychologues qui viennent à l'antenne. On se rend compte que ceux qui font du télétravail commencent à avoir des petites problématiques, là. On dirait que ça leur fait du bien, des fois, de voir des collègues de travail. C'est pas tout le monde qui a un entourage, là, avec conjoint, conjointe, des enfants. Il y en a qui sont tout simplement seuls à la maison. Puis là, quand on leur impose d'être 5 jours seuls à la maison, 8 heures devant leur ordinateur, mentalement, ça semble extrêmement difficile. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui sont pas obligés de retourner au travail, mais qui vont y aller quand même une fois de temps en temps pour faire le social, puis de voir un peu de chaleur humaine.
Ben, je me demande, j'allais même te poser la question, toi qui, là, on fait une rencontre virtuelle aujourd'hui, mais la plupart du temps, t'es équipé pour accueillir les gens. Tu sais, il y a comme je me demande s'il y a un intangible, une énergie différente quand les gens sont en présentiel avec toi sur les ondes.
Ouais. Ben, moi, c'est sûr que j'aime mieux quand j'ai les invités directement en studio parce qu'il y a plus de chaleur. Puis, mais tu sais, avec vous, je vous avais déjà rencontré, puis je savais que ça allait quand même très bien aller. Puis, au nombre de conférences que vous avez données, c'est plus vraiment difficile pour vous d'établir rapidement un contact. Ça s'entend, puis je pense que les auditeurs l'entendent présentement, là. Vos sujets favoris, c'est vraiment, le bonheur et le positivisme.
Oui. En fait,
Vous avez toujours été autour de ces sujets-là?
hier, j'ai une patiente, tu sais, très, très anxieuse qui a été déprimée toute sa vie. Puis, en fait, sa question, c'était, es-tu crédible comme psychologue? Est-ce que tu sais c'est quoi la souffrance humaine? T'sais, parce que, justement, je suis docteur du bonheur, puis je suis toujours dans la résilience, puis positif. Puis j'ai dit, ben, je vais te répondre honnêtement. Je ne vais pas te répondre comme docteur Sabongui, là. Je vais te répondre comme ami. Okay? Moi, à tous les matins, je me réveille dans un genre de trou noir dépressif. Puis il faut que je trouve et je crée toutes les petites étincelles de bien-être et de bonheur qui vont me faire sortir de ce gouffre. Et c'est pour ça que je suis devenu comme un militant pour le bonheur. Parce que je pense que c'est tellement important que c'est pas vrai que ça va arriver de façon aléatoire. Puis c'est pas vrai que ça va venir de l'extérieur puis que on devrait s'attendre que ça vienne vers nous. Je pense qu'il faut le créer au quotidien. Puis je prends aucune miette de bonheur pour acquis parce que je sais que si je ne crée pas ces petits moments, ben je vais rester dans un gouffre noir toute la journée. Alors c'est pour ça que je milite beaucoup pour le bien-être et le bonheur parce que c'est comme si les gens, les humoristes les plus drôles, les plus brillants, ils ont vécu pas mal de moments sombres dans leur vie. T'sais? Puis c'est comme, ils ont développé cette capacité à trouver de la lumière dans les moments ténébreux de la vie. Et ça, j'admire beaucoup. Mais si on prend pour acquis que la vie devrait être facile, la vie devrait être remplie de bonheur, ben, c'est comme le paradoxe. Mais là, on est toujours malheureux parce que c'est pas la vie qui va nous le fournir, c'est nous qui devons créer constamment.
Il y a un grand philosophe de notre époque qui est un chanteur de métal qui avait dit « Sometimes darkness can show you the light ». C'est une phrase qui est assez
Tellement vrai.
profonde. Une phrase qui est assez profonde. Mais comment avoir choisi ces thématiques-là qui reviennent souvent quand on entend parler du docteur Amir-Georges Sabongui, le bonheur, le positivisme? Est-ce que c'est quelque chose qui était naturel pour vous de parler de ces sujets-là parce que vous avez constaté que dans la société, on n'en parlait pas assez?
Très bonne question. Moi, je suis un petit gars super gêné. Okay, puis quand on parle de se foutre dans la chose qui nous rend mal à l'aise, j'ai très rapidement découvert que si je suis laissé à moi-même, je suis un petit gars gêné qui est un peu mélancolique, puis c'est pas une bonne posture, une bonne stratégie de vie ça, en général. T'sais, les filles trouvent pas ça. Peut-être à 15 ans, c'est cute le gars dark, là, toujours mélancolique, mais t'sais, à part les grands poètes, là, c'est pas cute. Après l'âge de 15-16 ans. Fait que je pense que en faisant mon parcours personnel, d'essayer de trouver mon bonheur, j'ai dit, écoute, moi je ne suis pas si brillant que ça, là. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui se sont posé cette question depuis des millénaires. C'est quoi la recette d'une bonne vie? Est-ce qu'il y a une recette pour le bonheur? Puis c'est quoi les ingrédients qu'il faut être sûr d'insérer dans notre vie pour qu'on soit heureux, puis qu'on crée une bonne vie pour nous, puis pour les gens autour de nous. Puis c'est quoi les pays qui ont différentes approches vers le bien-être humain ou tu sais, la valeur, la richesse, quand on parle de richesse externe, financière, ou la richesse d'une vie intérieure épanouissante, puis découvrir son potentiel, puis mettre son potentiel au service de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous oriente à tous les jours. Tu sais, c'est une science. Puis j'aime ça parce que c'est pas aléatoire, c'est pas juste dans ton feeling. Non, non, il y a vraiment une recette. Puis il y a vraiment des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont passé leur carrière à décortiquer puis à nous donner cette recette. Puis ça serait comme quasiment irresponsable de pas dire, ben là, on nous a donné la recette du succès. Puis là, on réussit pas dans la vie. Puis on est frustré parce que il y a rien qui marche. Ouais, mais c'est parce que les brillants nous ont donné la recette. T'as même pas besoin de la trouver, faut juste que tu
Faut
l'appliques.
l'appliquer. D'ailleurs, on en reparlera après la pause. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir, j'ai le plaisir aussi d'être avec le docteur Amir-Georges Sabongui, qui est un conférencier, qui est aussi un psychologue. Il est conférencier chez Horizon. Donc, c'est des conférenciers qui sont professionnels. Horizon.ca pour plus de détails. Vous faites des conférences pour les entreprises. Faites-vous des conférences aussi pour le public en général? Est-ce qu'un jour, vous allez ouvrir ça au public? On aimerait ça vous avoir à Québec.
Oui, j'aimerais beaucoup ça. Puis honnêtement, faudrait qu'on trouve une façon de rendre ça plus accessible. T'as raison.
On revient. Marceau, le soir. Mon invité de ce soir, Dr Amir-Georges Sabongui. Ses spectateurs et ses patients l'appellent Dr Georges. Vous avez coupé ça court, votre nom? Amir-Georges Sabongui, ça se dit bien quand même?
Mais, écoute, je vais t'expliquer. Quand Lady Diana avait un chum égyptien, là,
oui.
J'ai été le gars le plus cool au monde, tout le monde voulait un chum égyptien. Puis après le 11 septembre, c'était pas cool du tout non. avoir un nom.
L'avez-vous ressenti pour de vrai au Canada?
Beaucoup moins au Canada, beaucoup plus souvent quand je devais traverser les frontières américaines. Puis okay. heureusement, George, c'est vraiment sur mon baptistère, mon nom de baptême, c'est George. Fait que j'ai pas dû changer mon nom. Mais il y a eu des discussions, tu sais, après le 11 septembre, de changer mon nom légalement parce que c'était rendu difficile à traverser des frontières américaines. Puis, ouais. Et même que j'ai un frère aux États-Unis qui est comédien, puis... Lui, il vit beaucoup de difficultés. Puis pourtant, c'est le seul de la famille qui a un nom normal, c'est Patrick.
Il vit des...
C'est lui qui se considère le plus ethnique de la famille.
Wow!
Mais tu sais, point de repère, nous, on est comme... ouais, on a grandi dans un quartier très, très populaire, très multiethnique. Fait qu'on est les plus blancs du quartier multiethnique. Lui, c'était le plus coloré d'un quartier hyper blanc aux États-Unis. En Californie. Alors, je pense que lui, il a vécu beaucoup plus ça que moi.
Ouais. On revient à ce qu'on jasait tout à l'heure après la pause. J'avais avant la pause, c'est-à-dire, j'avais des questions à vous poser. Le fameux biais qu'on peut intégrer dans notre tête sur certains trucs de la vie, exemple. Je sais pas, moi, je suis toujours de mauvaise humeur, puis je remarque toujours les mêmes affaires. Tu sais, on se met un biais là où on devient comme mon oncle Gérard qui juge constamment tout. On est-tu capable de changer ce fameux biais-là qu'on s'est mis dans la tête pour je ne sais quelle raison, mais qui est constamment là, puis qui nous enrage tout le temps? Y a-t-il une façon peut-être de le faire carrément disparaître, puis peut-être de voir que la vie n'est pas toujours noire?
Ben, je ne sais pas si tu veux aller deep philosophique avec ça, là, mais on est comme le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution dans l'univers, tu sais, puis peut-être un 4 milliards d'années d'évolution de la vie sur la planète Terre. Fait que c'est impossible que l'univers au complet conspire pour qu'on échoue dans la vie. C'est comme il y a beaucoup trop d'investissements pour qu'on réussisse. C'est comme l'univers au complet est de ton bord puis veut que tu réussisses parce qu'ils ont vraiment investi beaucoup pour ton existence. Ça, c'est le côté philosophique. Alors, tu sais, on n'a pas besoin de savoir comment guérir un os cassé parce que le corps, il le sait. Il y a une intelligence innée dans le corps qui est capable de réparer des os cassés. Mais c'est la même chose pour nos émotions, c'est la même chose pour un cœur brisé. On a une intelligence interne, inhérente, qui est vraiment là à notre service, mais il faut qu'on apprenne à travailler avec. Puis le langage du corps, puis le langage de la guérison, c'est un langage qu'on doit apprivoiser. Puis ce biais dont tu parles, là, c'est comme des lentilles de lunettes. J'avais un jeune patient un jour. Chaque fois que je lui donnais un exercice, là, il roulait ses yeux en exaspérant, comme un... Tu sais, les vrais ados, là, ah, c'est stupide ton affaire. Fait que je vais expliquer ce concept. Ben, imagine que ton cerveau, là, ton esprit, c'est comme une caverne. Puis ta conscience, là, ton attention, c'est comme une petite flashlight. Fait que là, à chaque semaine, tu arrives ici, tu dis, garde, Doc, il y a des monstres dans le coin, puis ça, c'est épeurant, puis, tu sais, je sais pas ce qui est caché dans les côtés sombres. Je dis, ouais, mais, tu sais, si tu tournes ta flashlight de l'autre bord, oh, man, il y a des trésors dans ta caverne.
Ouais.
Fait que là, tu sais, il me trouve stupide et gossant, comme tous les ados, bien sûr. Puis là, quelques semaines plus tard, sa mère vient, tu sais, dans une rencontre avec lui. Puis il dit, ouais, il est revenu à la maison. Puis là, il nous dit, hey, là, maman, arrête de pas mettre ta flashlight sur le négatif, OK? Mets ta flashlight sur le positif. J'ai dit, là, quand moi, je lui ai dit ça, il m'a traité d'imbécile.
Mais là, il l'a intégré quand même.
Il l'a intégré pareil.
Ouais. Mais on a tous eu... On a tous eu, Dr. Sabandi, des gens autour de nous qui se levaient le matin et disaient, ben, ou ils arrivaient au boulot, ils disaient, je le savais aujourd'hui que ça allait être une mauvaise journée, je me suis levé un matin puis je le savais que ça allait être une mauvaise journée. Puis je dis, pis, ça a-tu. Parce que je parle d'une discussion que j'ai eu avec un collègue ici à la station il y a deux semaines, je dis, pis, ça a-tu été une mauvaise journée? Il dit, oh oui, ça a été une mauvaise journée. Je dis, pis toi, tu savais ça d'avance? Ben, il dit, oh oui, je me suis levé un matin puis ça a commencé, ça allait mal. Je dis, garde, ma journée va être comme ça tout au long de la journée. Je dis, ça se peut-tu que t'aies mis un billet dans ta tête qui fait juste voir les affaires qui vont mal? Parce que sérieusement, toi puis moi, on jasait tantôt, puis on a fait des jokes, puis on a eu du plaisir. Tu fais-tu dire que tout a vraiment été mal? Puis ça, il a fait un peu comme l'ado, là, sauf que lui, c'est un vieil ado de 45 ans. Là. Puis, mais je pense que ça lui a rentré dans la tête, ça. Comment on peut se lever le matin en disant, ça va être une mauvaise journée, puis espérer d'être hyper heureux à 17h le soir.
Ah non, mais regarde, moi, je me réveille de mauvaise humeur tous les matins, tu sais, puis je me lève pas du lit avant de faire mon petit journal de gratitude, puis me flatter le cœur, puis, tu sais, penser à toutes les choses que j'ai reçues dans la vie pour lesquelles je suis choyé, tu sais. Mais j'ai installé littéralement comme un petit bouton record sur mon cœur. Puis à chaque fois que je vis un beau moment, justement, OK, là, on vit un moment de complicité, on rigole, on parle de choses sérieuses, mais dans une atmosphère ludique, puis, tu sais, honnêtement, je t'apprécie, puis je me souviens de notre première conversation quand on était plus jeunes, il y a 5-6 ans, quand on s'est rencontrés. Fait que après, je vais peser record en disant, c'était vraiment cool le moment qu'on a passé ensemble. Fait que là, à la fin de la journée, quand je me dis, ah, c'était une journée de merde, je dis, non, mais attends, t'as pesé record 3 fois sur ton cœur aujourd'hui. Fait que rejoue ces moments-là. Oh, oui, OK. Une fois, c'était quand on rigolait avec Thomas. Une autre fois, c'est quand ma petite maman m'a appelé pour me demander si c'était pour la fête des mères, est-ce qu'elle veut qu'elle prépare mon mets préféré. Des petits moments comme ça. Puis à la fin de la journée, tu réalises que même si ton cerveau te dit que ça a été une journée de merde, ça, c'est juste ton système de survie qui est en train de te raconter des mentries. Parce que, non, j'ai compté 4, 5, 6 fois. J'ai pesé record. Ah, j'ai fait sourire la petite madame. Parce que je l'ai aidé à la caisse avec son sac. Et je me suis senti une coche mieux. J'ai fait quelque chose de positif pour quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose de positif pour moi. Fait qu'il faut un peu lutter contre ce biais négatif. Puis il faut être conscient de sur quoi. T'sais, porter attention sur quoi on va porter notre attention.
Ben, c'est en jasant avec des gens comme vous, Dr Sabongui, que on peut prendre conscience de ça. Moi, ça m'est arrivé. On a la chance de jaser avec des psychologues ou des psychiatres qui viennent une fois de temps en temps en onde. Puis aujourd'hui, quand j'arrive chez nous à la fin de semaine, puis mes gars, ils ont foutu un peu le bordel dans la cave. T'sais, avant, je me disais, ben voyons, je me suis tapé le ménage avant qu'ils arrivent, puis là, je vais me taper le ménage avant, après qu'ils partent. C'est donc bien tannant. Puis depuis que je m'étais fait dire ça, c'est-à-dire enlève ton fameux billet négatif, puis essaye de voir s'il n'y a pas d'autre chose de positif. Tu sais, à ce temps, je me dis, regarde, c'est le bordel, mais mes enfants ont eu du plaisir, sont en santé, puis je suis heureux, sont avec moi. Fait qu'on essaie de compenser de cette façon-là plutôt que de tout le temps être négatif.
Oui, puis l'idée, c'est pas juste de dire les mots, Thomas. C'est, tu sais, quand tu disais ça, ça me faisait revivre les petits moments avec mes enfants. Il n'y a personne qui a jamais dit « Hey, profite de ta carrière, là, ça passe tellement vite. » Il faut qu'il y a personne qui a dit ça. Mais avec les enfants, c'est vrai. Fait que tu vas t'ennuyer dans pas très longtemps, tu vas t'ennuyer justement de ces moments où c'était le chaos, c'était le bordel, puis on peut chamailler avec les enfants. Puis, alors, tu sais, c'est une grande sagesse que tu partages en ce moment. De dire « Ok, wow, qu'est-ce que je préfère? Avoir un sous-sol impeccable sans enfants? » Ou avoir deux petits gars que j'adore, puis qu'on va chamailler, puis qu'on va foutre le bordel ensemble. Puis...
Dernière question, docteur Sabongui, avant de se laisser. C'était trop court. Que pensez-vous de l'accès à la psychologie au Québec? Je trouve ça épouvantable qu'on dise à des gens qui ont besoin d'un psychologue très rapidement, ben là, c'est 6 mois d'attente pour ce qui est du privé. Entre 4 et 6 mois d'attente pour ce qui est du privé. Puis c'est encore pire au niveau du public. Des fois, c'est plus d'un an. Quand ça va pas, entre nos deux oreilles, c'est là que ça va pas. Dans un an,
oui. Et c'est pour ça que moi, je dirais que faire appel à un psychologue, c'est comme le dernier point dans un parcours. Tu sais, si on a un tableau de bord, moi, j'aimerais que les gens demandent à l'aide quand on est jaune, quand les amis, les membres de la famille peuvent nous épauler un peu. Tu sais, orange, OK, on a besoin peut-être d'un support un peu plus corsé, mais rouge, là, quand les gens font appel à un psychologue, c'est parce que ça fait longtemps leur parcours de souffrance.
Ouais.
Alors, oui, ce que tu dis me brise le cœur. Parce que, tu sais, attendre un an pour être vu quand tu souffres aujourd'hui, c'est... Non, oublie ça. Alors, non seulement, je pense que ça devrait faire partie littéralement du cursus scolaire. Tu sais, est-ce qu'on se rappelle tous comment calculer le volume d'une sphère, non, zéro fois qu'on prend tout, mais est-ce qu'on se rappelle maintenant, OK, comment identifier mes émotions, puis comment avoir un genre de protocole d'intervention pour soi-même? À la maison, nous, on utilise un peu comme les cartons soccer, tu sais. Puis si je passe une mauvaise journée, ben mes enfants peuvent me dire, OK, papa, là, tu respires fort. Puis quand tu respires fort, ça veut dire que tu portes pas un bonhomme sourire. Fait que carton jaune. Puis mon carton jaune, c'est 15 push-ups, 15 minutes de méditation, 15 minutes dans mon journal de gratitude, puis 15 minutes d'humoriste. Puis je reviens une heure plus tard, puis je suis mieux d'avoir mon bonhomme sourire, tu sais. Parce que je veux pas avoir un carton rouge, parce que
Ouais.
carton rouge, pour moi, c'est 5 minutes dans un bain de glace, papa. God, man. Fait que si on prenait tous un peu plus la responsabilité pour notre santé et bien-être, puis on s'épaulait en famille, en communauté, parce que la question que je reçois le plus souvent, c'est « Ah oui, mais j'ai un proche, un ami qui est en détresse, comment je peux venir en aide? » Puis on devrait tous être formés pour reconnaître les signes de détresse dans les autres, puis quoi faire pour épauler quelqu'un, puis quoi faire pour reconnaître les signes de détresse en nous-mêmes, parce qu'on ne les remarque pas
Ouais.
toujours.
Avoir de bons outils psychologiques en très bas âge.
Ça devrait faire partie du cursus. Si ce n'est pas dans le cursus scolaire, ça devrait être dans le cursus familial. Les petits moments record, nous, on partage ça autour de la table de la salle à dîner à tous les jours. On a, tu sais, notre protocole de carton rouge, carton jaune, on met ça sur le frigo avec chaque nom. Fait que tout le monde sait quand papa est jaune, il faut qu'on lui donne un carton puis qu'il aille prendre soin de lui. Tu sais, ça fait partie maintenant de
Ah, j'aime ça.
notre culture familiale.
J'aime ça. Docteur Georges, on peut vous retrouver chez les conférenciers d'horizon.ca. C'est là où on peut vous retrouver. Ça a été un plaisir de vous jaser puis de vous retrouver après tant d'années. Vous avez dit 5 ans, mais moi, je pense que ça date de pas mal plus longtemps que ça. Je veux pas vous
Pourquoi tu.
vieillir.
Là, je vais enlever le bouton record. Là, tu fais. Ah!
Je veux pas oublier, mais je pense que ça doit faire au moins 10 ans, à peu près.
Wow!
Ouais. Je pense que c'est
Wow! Ben,
2013,
mon...
2013-2014, ça se peut-tu?
Ben, je vous quitte avec une citation de mon père que les journées sont longues, mais les années sont courtes. Alors,
Voilà.
tu viens de le. Merci.
Passez une belle soirée, merci d'avoir été des nôtres. Puis lorsque vous serez de passage à Québec, ben juste à me lâcher un coup de fil, puis ça me fera plaisir de vous recevoir en studio et vous serrer la pince pour une deuxième fois. Ça a été un
Mon
plaisir.
plus sincère plaisir.
Pour ce qui est des auditeurs, passez une belle soirée, puis on se reparle lundi. Belle soirée, puis une belle fin de semaine. On se reparle lundi 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye.